Georges Baume, Le Louvetier. En Rouergue, les louvetiers sont des anciens pâtres qui, s'étant retirés dans la vie sauvage des causses et des bois, tiennent, dit-on, commerce avec les loups. Ils savent les comprendre, leur parler, les soigner même dans leur maladie au fond des terriers. Leur nom est respecté dans les hameaux et dans les fermes. Partout on les héberge avec empressement, on les choie. Si, par aventure, le maître d'un domaine expulse de son foyer ses rustres libérés de toute servitude, il se venge sans pitié. C'est eux qui signalent aux loups, dit-on, les troupeaux du paysan bourru. Mais le plus souvent, quelle bombance dans une ferme lorsque se présente, criant son bonsoir glorieux, le louvetier d'Écosse, et que, dépouillé de ses peaux de loup qui l'enveloppent à la façon d'une houppelande, de la bonnette qui s'enfonce sur le front étroit, il s'assied au milieu de la table, royalement, sous le quinquet qui fume. On le plaisante, on l'interroge sur le temps du lendemain, sur la bonté des récoltes, on le sert avec largesse afin qu'il se montre favorable à la terre prochaine et en écarte les loups. Le plus puissant de ces bons apôtres était sans contredit Andoc Toussaint, lequel, après avoir perdu sa femme et ses enfants, s'était donné à la montagne. Dans le causse d'Anglas, qui traverse le col de la Joute, ravin tout noirci de broussailles, il trouvait chaque jour son gîte et sa pitance. Il en imposait, avec sa haute taille, sa face rouge et camarde, qu'ornait un collier de barbe noire, ses gros yeux luisants comme des chandelles, ses mains terreuses, qui rompaient sans effort un pain de 2 semaines. Lorsque, dans les parages d'un domaine, il passait pieds nus, son bâton en main, sa besace au dos, les femmes et les enfants s'enfuyaient, les hommes quittaient vite leur besogne, afin d'accueillir chez eux le vagabond des pierres, souverain mystérieux du causse. Ce soir d'été, dont la lumière bleue découpait là-haut, sur le ciel, aux abords de la montagne, la crête des rochers dressée en forme de falaise, Andoc, au fond du ravin, se reposait. À ses pieds, un ruisseau pénétrait brusquement sous la terre, d'où, après avoir parcouru 2 lieues dans la veine sinueuse des roches, il rejaillit au jour, à l'issue du val, près du Tarn. Andoc ne bougeait pas, jouissant une fois encore de l'âme silencieuse et simple de son pays. Pourtant, une rumeur grandissait là-haut, sur les falaises. Il leva la tête. Il vit, sur la tendre lumière, se profiler en son manteau de bure et son chapeau de feutre rabattu, le maigre pâtre de Bressac. Ce vieux ménard, décidément, ne péchait pas par la modestie. À force d'entendre vanter son audace, il voulait maintenant, pour l'unique plaisir d'accomplir une prouesse, reconduire ses moutons par la falaise au lieu d'aller, 1/4 d'heure plus loin, prendre le sentier de tout le monde. Quelle descente ardue sur les saillies glissantes qui surplombent l'abîme, puis dans les buissons flexibles, dans les pierres qui roulent, dans les chênes trapus aux racines desquelles on trébuche à chaque pas. Andoc, qui bien vite s'était caché dans un taillis, regarda s'exécuter la descente prodigieuse. Il avait trop longtemps mené les bêtes pour ne point compatir au supplice qu'endurait celle-ci. Elle bêlait longuement, avec une tristesse suppliante. Elles se penchaient pour mesurer l'abîme, elles observaient au-dessus d'elles les passes déjà franchies. Ensuite, subitement, elles sautaient 2-3 fois, toutes tremblantes, pelotonnées contre le mur de la montagne. Mais elles se poussaient l'une l'autre. Les premières devaient céder la place aux moins alertes, qui, restées en arrière, avaient peur rien que d'être isolées, loin du maître. Ménard les gourmandait d'un ton menaçant, quelquefois levait son bâton. Solide dans ses souliers ferrés, il était parvenu à la région des chênes, où le troupeau peu à peu put le rejoindre. Ménard, bientôt, aurait le droit de se rengorger devant la fermière et Toinette, sa servante. Andoc, dans le taillis, demeurait immobile, ému d'admiration, lorsqu'il vit une bête oubliée se détacher là-haut, de la région des pierres, et dégringoler, tel qu'un sac de farine, par les buissons et les chênes jusqu'au ruisseau. Satisfait de constater que la prouesse n'existait plus, Andoc frémit d'aise en retenant son rire. Le pâtre s'avançait toujours à droite vers la ferme. Il frappait le sol de son bâton ainsi que de la hampe d'un drapeau fièrement. Le chien se freluquait, courait de ça, de là, pour exercer en apparence une attention rigoureuse à l'égard de ses bêtes, en réalité pour choisir, loin des regards de son maître, un passage bien sûr. Le silence reparut. La pauvre bête abandonnée ne geignait pas au bord du ruisseau. La solitude l'effrayait peut-être. Ignorant le chemin de la ferme, après la grotte où le ruisseau s'ensevelit, elle cherchait peut-être une herbe épaisse afin de s'y reposer jusqu'à l'aube. Dans la paix du paysage familier, Ondoc eut une de ces inspirations qui, chaque jour, quand sonne l'heure du gîte, viennent aux vagabonds de son espèce. Il s'avança. À peine avait-il franchi le ruisseau qu'il découvrit, sur le tapis d'herbe épaisse, la bête blessée qui s'apprêtait à dormir. « Oh, la bestiole, que tu es jolie !» dit-il en caressant son menton velouté et ses courtes oreilles. « Grâce à moi, petite, tu reverras ton étable. Tiens, laisse-moi faire !» C'était un agneau blanc et dodu qui ouvrait à demi ses paupières et qui, tant il avait de fatigue, remuait son museau sans bêler. D'ailleurs, très étonné, il épiait doucement cet homme inconnu qui le berçait entre ses bras. Ondoc, en effet, avait une compassion véritable. Il sentait contre son cœur, qu'il n'entendait plus battre depuis longtemps, battre le cœur fragile de l'agneau. « Allons, petit, tu ne te doutes pas de l'aubaine que tu m'apportes. Surtout, ayons du courage. Dors si tu peux. » Et son fardeau entre les bras, Ondoc gravit la montagne par un escalier fort accessible. Sur le causse, presque à pic, une carcasse de murs osseux que parfumaient des sauges et des lavandes. Le plateau étendait à l'infini sa végétation de pierre. À l'horizon, le soleil, en déclinant, provoquait un incendie dont les flammes projetaient dans l'espace une fumée violette. En ces altitudes sereines, l'homme, plus près de Dieu, a conscience de sa faiblesse. Ondoc, le louvetier, n'avait pas l'émotion de l'ombre. Son âme y restait aussi robuste que la lumière du jour. Il riait, ne songeant plus qu'au bon tour qu'il allait jouer au fermier de Bressac. « Ah ah, mon trésor, couche-toi dans la lavande, tu n'attendras pas longtemps !» L'agneau, couché dans les touffes odorantes, au pied d'une tourelle, regardait son ravisseur avec résignation. « N'aie pas peur des loups, sais-tu ? Si tu ne bêles pas, si tu ne bouges pas, ils ne te devineront jamais dans ces ruines parce que les troupeaux n'y viennent plus. Ils sont si stupides. Maintenant, il faut que je te quitte. Adieu, sois sage. » Ondoc parlait ainsi aux bêtes domestiques avec sa tendresse d'autrefois envers ses enfants. Et de fait, jamais un chien ne le mordait et quand il croisait un troupeau, les bêtes d'instinct allaient à lui. Enfin, il s'en retourna. Les étoiles s'allumaient à la voûte du ciel comme les cierges à l'église. Dans les lointains du causse, parmi les ténèbres, se mouvaient des silhouettes de cités fantastiques, des bandes de loups rampants avec leurs yeux rouges. Ondoc arpentait à larges pas le chemin, au bord de la falaise, il était heureux. Tout de même, en approchant du sentier que Ménard n'avait pas pris tout à l'heure, il se contint de rire. Le ravin montrait son puits d'obscurité. De ses pieds nus, Ondoc écarta les broussailles, il s'engagea dans la descente, aidé de son bâton. Là-bas, dans une prairie, les fenêtres de la ferme brillaient parmi des yeuses. « Ah ah, les martins me préparent la fricasse !» Un chien jappa, ce niais gardien de moutons qu'on aurait dû mettre au cachot. « Veux-tu te taire, loup de mauvaise race ?» Tandis qu'Ondoc disait ces mots, il vit la porte s'ouvrir et, dans le cadre de la clarté brusque, apparaître le berger en son manteau de bure, avec sa face maigre et rasée. « C'est toi, Ondoc ? Pardi, ça ne peut être que moi. Est-ce que je t'effarouche ?» Ondoc, l'ayant repoussé d'une main, bruyamment entra avec son air de sorcier qui, d'un regard rapide, observe les êtres et les choses. Les deux femmes, la fermière Martine à la taille opulente et Toinette, une montagnarde blonde dont le feu rougissait les joues et les cheveux, s'arrêtèrent de travailler. « Bonsoir, bonsoir. Eh bien, qu'avez-vous à m'examiner comme si je tombais de la lune ?» Ménard avait refermé la porte avec précaution. Ondoc, cependant, enjambait le banc poisseux de la table et, brave selon l'habitude, s'insalait. Les mains sur la face, il demanda « Où est le maître? Il va bien ?»« Mais oui !» répondit la fermière avec humilité. « Ah ça, qu'avez-vous? Vous êtes d'un lugubre de carène. Est-ce que ton fils est mort au régiment, Martine? Est-ce que votre cheval s'est couronné en voulant labourer les âpres flancs de la montagne? Pire que ça!
Pire que ça?
Oui, mon ami, fit une voix de basse taille qui sortait du cellier. Si les loups se mettent à manger mon troupeau, nous ne pourrons plus de quelques années tenir des moutons. Et Martin, le maître d'océan, montra sous le quinquet sa tête carrée aux cheveux gris, sa benette importante, son pantalon de velours qui faisait des plis sur les sabots.
Ah, ah, riposta Andoc, tu ne soignes pas assez les louvetiers. Les loups te menacent.
J'organiserai une battue si les voisins veulent me prêter leur concours. Pendant que le fermier déposait ses bouteilles de vin sur la table, Toinette, sans frayeur, s'avança vers l'intrus qu'elle dédaignait à cause de sa paresse. Celui-ci, hardi, l'empoigna par le bras.
« Tu ne me crains guère, on dirait. »«
Non, vous n'êtes qu'un homme du Causse. »«
C'est vrai. Donne-moi à boire, j'ai soif. »«
Est-ce que vous paierez ?»«
Tais, tais, par exemple. »«
Allons. » Tu négliges de te souvenir que je suis le louvetier d'Anglars.
Mes maîtres sont trop bons et moi j'aime la ferme. Je vous dis de vous en aller.
Andoc se mit à rire à grands éclats en frappant la table des coudes et de la tête. Le pâtre se tenait adossé contre la porte, prêt à siffler son chien en cas de danger. Assis sur une chaise basse, Martin gémissait sans volonté. Mais Martine s'avança, les poings aux hanches, pour amadouer l'homme qui avait le pouvoir de parler aux bêtes dans la nuit.
« Toinette est jeune, Andoc. »«
Je le vois, je le vois. »«
Toinette, tu ne sais pas le respect qu'on doit aux pauvres. On estime partout Andoc tout seul le louvetier. »«
Qu'il me punisse s'il peut vraiment quelque chose. Moi, qui suis jeune, je travaille. »
Andoc s'interrompit de rire. Il écarquilla ses gros yeux pour considérer le visage de Toinette qui, tout de même, le séduisait comme un buisson de roses rares dans le Val de la Joute et dit, les dents serrées,
« Tu m'insultes, je te ferai manger par les loups un soir que tu sortiras. En outre, tu ne te marieras jamais. »
Toinette, renversant son buste avec une grâce joyeuse, riait à son tour.
« Tais-toi !» lui cria Martin. « Ma ferme est hospitalière, sais-tu ?»
Tandis qu'elle se retirait pour éplucher des pommes, le fermier, posant une main sur l'épaule du louvetier, ajouta « Nous avions un agneau très doux et très joli. Toinette l'aimait, tu comprends? Sa disparition lui fait perdre la tête. »«
Je comprends. Alors c'est un loup qui est venu en maraude ?»«
Sans doute. »
Pourtant, tu as un pâtre plein d'expérience, répliqua Androc, dont l'intérêt était de captiver son monde par des flatteries.
Les loups, intervint Ménard d'une voix plaintive, ont si vite fait d'attraper un agneau. Le soir, on ne les aperçoit pas dans les buissons.
Eh bien, si c'est un loup, ça m'étonne. Je leur avais recommandé à tous de respecter le domaine de Bressac.
Alors, paraissant aussi affligé que le fermier et son pâtre, le louvetier se leva lentement, se planta devant le feu dans un air de songerie. Toinette, qui l'épiait toujours avec malice, s'éloigna dans le cellier en battant les portes.
« Cette fille, dit Andoc après un silence, si elle continue, sera malheureuse. Vous lui ferez boire de la tisane de mauve arrosée de quelques gouttes d'huile et ce mal d'orgueil lui passera. Mais reprenons. » « Tu dis, Martin, qu'un agneau a disparu en descendant du Causse ?»«
Oui, répondit le pâtre qui baissait le front. »«
En descendant du Causse, répliqua le louvetier sombrement. « Ça m'étonne. Voyons, j'avais recommandé à tous mes sujets la discrétion la plus absolue envers Bressac. Ce n'est pas le grand loup Calice qui a commis le larcin. Il est vieux, il sait combien je déteste les récalcitrants. Ce n'est pas non plus Bidalou. » Il n'aime que les moutons venus à point. Ce n'est pas non plus la louve, elle chérit trop ses petits pour s'attaquer à une bestiole. Allons, voyons, qui ça peut être ?
Andoc réfléchissait. Chaque fois qu'il appelait par son nom un de ces loups que, à force de le croire, il s'imaginait connaître, il se touchait le front du bout des doigts afin de presser sa mémoire. Puis, les bras croisés, il songeait profondément. Ceux de la ferme, dans un recueillement où l'on entendait ronfler la flamme de l'âtre, le regardaient à peine, attentifs à ses oracles, anxieux qui voulut bien aller sermonner la bête coupable, s'il était temps encore. « Ah ah ! » s'exclama le louvetier triomphant. « Ordonnez donc à Toinette de venir m'écouter. » Toinette rentra du cellier, à corte et rieuse comme devant. La pureté de ses yeux bleus fit, malgré tout, sourire le pauvre. « Petite, je veux te donner une leçon qui t'incitera à la sagesse. Vois-tu, j'ai trouvé le loup coupable de t'avoir ravi l'agneau. C'est Pascal, un gamin tout jeune, qui n'a pas plus de cervelle que toi. Il oublie toutes mes recommandations, il gambade, il joue, pendant que je parle à sa tribu. Il est si distrait qu'il prend un domaine pour un autre. Viens avec moi, tu te rendras compte que je gravis réellement la montagne du Causse. » fit Toinette. « Le voleur n'est peut-être pas loin. Tu nous racontes des histoires parce que tu veux manger. Eh bien, mange !» Tandis que, d'un geste méprisant, elle poussait l'homme vers la table, Andoc, dans un élan de colère, frappa le sol de ses pieds nus et dit « Effronté qui me tutoie ! Je n'ai jamais rencontré la pareille. Je ne veux pas manger, non. Je veux d'abord monter sur le Causse et te rendre ton agneau, Martin. » « Le temps presse, nous avons déjà trop discuté. Laissez-moi partir. »« Va, va vite. Toinette sera la première à te remercier quand tu nous reviendras. » Andoc, laissant son sac et son bâton, se précipita dans le ravin obscur. Là-haut, sur le Causse, une houle de vent retentissait par les ténèbres jusqu'à l'horizon, où des étoiles semblaient parfois, au ras des pierres, des yeux de loup dansant en ronde. L'agneau, sur sa couche de lavande, était endormi. Lorsqu'Andoc le souleva, il se mit à bêler de frayeur, réveillé dans ses rêves de montagnes vertes et d'étables. Mais, reconnaissant l'odeur du pauvre qu'il avait si bien soigné tout à l'heure, il se tut. « Allons, mon petit, dépêchons-nous, j'ai faim !» Tout en le caressant, Andoc cheminait gare-gare sur le bord de l'abîme, dont le souffle lui signalait l'approche. Avec quelle précaution il s'engagea dans le sentier ? Combien de fois il manqua de broncher ? Là-bas, dans l'herbe paisible, il respira. « Eh eh ! Nous y sommes !» En effet, le chien du pâtre Ménard se mit à japper. Il s'élança, courut par bonds allègres autour d'Andoc. À ces aboiements d'amitié, les gens de la ferme comprirent. Ils arrivèrent dans la cour tous ensemble, même Toinette, qui, de confusion, se mordait les doigts. La porte creusait dans la nuit un trou de lumière où le louvetier pénétra le premier en faisant sonner son rire comme une trompette. « Eh bien, Toinette, es-tu contente ?»«
Oh oui, mon petit agneau !»
Elle saisit, sans demander pardon, l'agneau déjà mouillé par la brume du Causse. Pendant qu'il ouvrait ses yeux timides sur la flamme grondante, elle dit «
Ma foi, qu'il nous revienne par la grâce de Dieu ou par le caprice du diable, nous allons faire fête si nos maîtres le veulent. Seulement, je conseille au pâtre de rentrer plus tôt le soir. »
Une fois encore, elle épia de travers Andoc le louvetier, puis emporta sa bestiole à l'étable. Bientôt, Ménard coupait le pain, Martine servait la soupe que Martin distribua dans les assiettes de grès. Andoc, installé à sa place de roi, soufflait de plaisir en mangeant. Martine apporta du fromage. Tous les fromages du pays, celui de chèvre, celui du Cantal, celui de Roquefort, puis du jambon et quelques-uns de ces chasselas du Val de la Joute qu'on met à sécher en guirlande, suspendus aux solives du plafond. Toinette allait et venait, alerte, sa jupe relevée par un nœud dont les pans lui battaient les mollets. Vers la fin du repas, Andoc lui dit « Tu parlais du diable et ?»«
Parce que, sans le savoir peut-être, vous êtes le diable d'Anglars. Vous êtes fort, vous savez parler par énigmes, coucher à la belle étoile, résister au vent et à la pluie. On vous craint. »«
Ah, la petite cervelle !» Tous s'égayaient, très amusés par l'espièglerie de Toinette, dont les joues dorées avaient des fossettes.
« On ne craint pas les loups, reprit-elle, on craint les louvetiers. Cela vaut mieux, puisqu'on peut, après tout, émouvoir le cœur du louvetier. »
Andoc, un peu confus, serra son front entre les mains.
Ensuite, pour réfléchir, vida patiemment son verre. « Veux-tu m'accompagner ce soir, Toinette? Tu viendras seulement jusqu'à la route où je te montrerai de loin mes loups. Après, tu rentreras seule ici. Tu ne risques rien, je te le jure. Veux-tu ?»«
Oh, oh !» firent les fermiers effarés. « Dans la nuit du Val ?»«
Laissez répondre, Toinette. » La servante, à l'évocation du monde des ténèbres où les bêtes courent par troupeaux, tressaillit. Un moment, dans sa folie de défier le vagabond qu'elle croyait païen, elle hésita.
« Eh bien non, dit-elle, je ne viens pas. Ce n'est point que j'ai peur de vous, j'ai peur du conseil du Val la nuit.
Puisque tu résistes et que tu te vantes, je lancerai mes loups contre toi.
Les loups, c'est bon pour les enfants.
Ils ne te toucheront pas, mais ils te rendront malheureuse jusqu'à ce que tu m'implores miséricorde, car je reviendrai ici souvent. »
« Oui, oui, reviens !» s'écria le fermier qui fébrilement agitait son couteau.
Andoc, après avoir prononcé ses menaces, refusa de parler davantage. Les Martins, pour l'attendrir, lui frappaient sur l'épaule, lui versaient du vin. Ils emplirent sa besace de pain, de jambon et de saucisses, de victuailles choisies qui dureraient au moins 8 jours. Renonçant néanmoins à coucher sur la litière de l'étable, le louvetier salua la ferme d'un geste fraternel et décampa. Toinette feignit d'avoir beaucoup d'assurance. Même par forfanterie, elle repoussa la porte d'un coup brutal. Ses maîtres la grondèrent et elle riait toujours, nerveuse, d'un rire faux. Ainsi que chaque soir, elle s'en alla fermer les issues de la maison et du domaine. Elle rattachait la clé de la prairie, assez loin, vers le ruisseau, lorsqu'elle entendit se lever un vent d'orage le long des falaises. Ayant levé les yeux, elle vit au ciel courir des étoiles, crut voir sur la crête du causse des yeux de bête, blonds et rouges. Elle entendit des clameurs plus proches, un fracas d'écluse là-bas, au moulin, et dans les broussailles du ruisseau, la rumeur d'un pas.
« Un loup ! Les loups ! »
À coup sûr, ce n'était pas Andoc le vagabond. Il ne pouvait de toutes parts provoquer tant de bruit. Alors, sans rattacher la clé de la prairie, Toinette courut vers la ferme dans la noire solitude. Sa précipitation sur le dur chemin éveillait l'écho de pas nombreux qui lui semblaient la suivre. En courant, elle tomba. Des pierres roulaient sur les flancs de la montagne. Là-bas, du côté du moulin, des hiboux ululaient. Au souffle du vent d'orage, Toinette fermait les yeux. Son cœur tremblait comme une feuille. Heureusement, le chien du pâtre vint la rejoindre et la réconforter en lui léchant les mains qu'elle avait toutes meurtries. Elle se releva. Tandis qu'avec ses dents il la tirait par le tablier, elle revint vers ses maîtres. Dans la ferme bien close, le pâtre lui dit d'un ton sentencieux « Ne te moque plus jamais des choses que tu ne comprends pas. »
« Tais-toi, je riais trop tout à l'heure. »
Le monde est trop grand, trop rempli de mystères pour qu'on ne soit pas plus heureux de le regarder simplement, avec humilité.